Bienvenue sur la chaîne AAU, Ambiance, Architecture, Urbanité.
Alors pour notre troisième intervenant, c'est un intervenant un peu spécial, c'est un collectif de doctorants qui est composé de trois doctorants. Je commence par Rima Hadbi qui ne pourrait pas être aujourd'hui avec nous pour des raisons personnelles. Rima, elle est urbaniste diplômée de l'Institut d'urbanisme de Grenoble en 2017. Elle est doctorante en urbanisme, mention architecture à l'école d'architecture de Grenoble et elle est membre de l'équipe Cresson depuis janvier 2018. Anouar Hamrouni aussi, tu es architecte diplômé de l'École nationale d'architecture d'urbanisme de Tunis. Tu es actuellement doctorant en thèse en co-tutelle entre l'équipe de recherche sur les ambiances ERA et le Cresson. Et vous êtes tout de même enseignant à l'École supérieure privée d'ingénierie et de technologie Esprit. On a aussi Tani Cajouan, qui est formée géographe et qui a entamé sa thèse en 2019 à l'Université de La Réunion dans le laboratoire Piment et entre Piment et Crénon. L'intitulé de cette intervention est « Ambiance, récit et mémoire en temps de transformation urbaine, discussion croisée entre Saint-Denis à La Réunion, Grenoble et Tunis ».
Alors, bonjour. Donc, nous avons été sollicités, Rima Abdi, Anouar Hamrouni et moi-même, en avril dernier, par les organisateurs de la première journée AAU, afin de constituer ce collectif de doctorants. Et donc, je voudrais remercier déjà pour cela Georges et Noël de nous avoir permis de nous rencontrer pour échanger sur nos terrains respectifs. Nous avons, au fil de nos échanges, fait le choix de croiser nos terrains, nos questionnements, pour discuter de la manière dont la mémoire, les mémoires se recomposent à plusieurs échelles dans les contextes de transformation urbaine, en s'appuyant sur des récits de chacun de nos terrains. Donc aujourd'hui, je porterai à la fois mon récit sur les cités de Piranhas-Caspierre au Butor à Saint-Denis-de-la-Réunion et celui de Rima sur la cité de l'Abbaye à Grenoble. Rima qui n'a finalement pas pu être là et qui s'en excuse profondément. Elle aurait vraiment aimé être là. Je laisserai ensuite Anouar présenter son travail sur les oukalas de Tunis. Donc, lors de nos échanges pour préparer cette journée, nous nous sommes tous les trois naturellement interrogés sur les caractéristiques mêmes de la mémoire sur chacun de nos terrains d'études. Nous avons alors admis que sur un même espace cohabitent des mémoires multiples et variées, mémoires de ceux qui l'habitent, qui le pratiquent, qui le fabriquent, mais aussi de ceux qui déterminent sa gestion. Cette diversité de mémoires, tant fluctuante que labile, résulterait à la fois de l'expérience vécue de chacun, de ses acteurs, de leur appropriation symbolique et de la valeur affective qu'ils accordent au lieu. Lorsque la ville se transforme, que les quartiers se transforment ou que des fragments d'îlots se transforment, les mémoires sont de fait impactées et négociées entre les différents agents qui gravitent autour du projet, et ce, au gré de leurs intérêts, de leurs besoins et de leur attachement au lieu. Pour illustrer notre propos, nous nous appuierons donc sur nos travaux de recherche respectifs menés à Grenoble, à Saint-Denis et à Tunis. Ces enquêtes, qui n'ont d'autre point commun que celui d'interroger les récits de la transformation urbaine, s'appuient sur des acteurs et des cadres différents, dans des territoires éloignés, et nous racontent toutes trois à leur manière la place de ces mémoires dans le projet d'aménagement urbain. Cette communication propose donc de discuter l'expression de ces mémoires, de ces lieux, dans la rencontre entre les habitants et les acteurs institutionnels de l'aménagement urbain et de discuter les reconfigurations sensibles qu'elles subissent en contexte de transformation urbaine. Alors, comment on change ? Donc, à Grenoble, lorsque Paul Mistral était élu maire en 1919, la ville est encore enserrée d'une plaine, entourée de montagnes et bornée par ses remparts. Pour moderniser Grenoble et lutter contre la crise du logement, le socialiste Paul Mistral souhaite passer immédiatement à l'action, avec la création en 1921 de l'Office public d'habitation à bon marché de la ville de Grenoble. La cité de l'Abbaye, dont vous voyez les photos ici, construite en 1927 et 1931, entre 1927 et 1931, fait partie des premières constructions sorties de terre en pleine campagne extramuros. C'est autour d'elle que plus tard, la plaine s'urbanise petit à petit pour se transformer en un quartier urbain majeur. Avec son style architectural local et caractéristique des années 1930, des experts locaux la considèrent comme l'ultime témoin non transformé de cette époque. Ses qualités lui valent d'ailleurs, en 2003, l'attribution du label Architecture contemporaine remarquable. Pourtant, dans leur volonté d'assurer le renouveau du quartier, la ville de Grenoble et le bailleur Actis, propriétaire de la cité, tranchent furtivement dès 2008 pour sa démolition-reconstruction. Entre 2008 et 2016, la cité de l'Abbaye va faire l'objet de profonds questionnements sur son devenir. Les études et les évaluations sur son état technique, ses qualités architecturales, urbaines et sociales se multiplient et suscitent l'intérêt de nombreux collectifs et défenseurs du patrimoine ordinaire. Dans cette atmosphère ponctuée de désaccords entre les habitants, les aménageurs, les élus et le bailleur social Actis, on s'interroge avant tout sur ce qui restera de la mémoire de la ville et de ses habitants si elle venait à être entièrement démolie. Pour essuyer les critiques, la ville de Grenoble et Actis mandatent en 2016 l'équipe pluridisciplinaire Particules pour réaliser une étude sur le renouvellement urbain de la cité, de l'Abbaye. L'un des enjeux majeurs de l'étude consistait alors à réaliser un diagnostic vivant qui recueille tant la mémoire habitante que les usages, la pratique et les ambiances de la cité dans son milieu urbain. Pourtant, au même moment, la ville de Grenoble acte la démolition d'un bâtiment, place Joseph Ribou. De mon côté, donc à La Réunion, compte tenu de sa situation urbaine, sanitaire et sociale, et des problématiques de logement que connaissait l'île au moment de la départementalisation en 1946, son urbanisation s'est appuyée sur une logique de rattrapage accélérée à partir des années 1970. En moins de 20 ans, l'île connaît des mutations profondes dont les villes concentrent les effets. Aujourd'hui, la mémoire collective de ceux qui ont connu ces transformations ils sont riches d'un passé récent. Ainsi, sur le littoral de Saint-Denis, donc là, vous avez une photo de Saint-Denis actuellement et donc où j'ai identifié la cité de Piranhas-Caspierre sur laquelle porte cette présentation. Et en amont, vous voyez le début de la ravine du Butor. Donc, ainsi, sur le littoral de Saint-Denis en 1970, se trouvait le village de Patata-Durand, constitué de quelques maisons en bord de mer, occupées par des familles de pêcheurs à proximité d'anciennes forgeries abandonnées et d'une ancienne manufacture de tabac devant lesquelles passait une petite nationale. Donc là, vous devez pouvoir identifier la petite nationale et les maisons dont je parle sont celles qui sont situées devant les grands bâtiments rectangulaires qui sont à un lycée. Voilà. Donc, depuis, la petite nationale est devenue aujourd'hui une deux fois deux voies embouteillée. Et l'urbanisation qui s'est poursuivie a rapidement circonscrit les mémoires de ce quartier de pêcheurs sur un îlot bien délimité du quartier du Butor. Dans le flot des transitions territoriales brutales de la ville de Saint-Denis, l'histoire du quartier de pêcheurs s'est peu à peu dématérialisée pour vivre dans les mémoires collectives. Le 29 octobre 2018, alors que la convention pluriannuelle de l'ANRU s'apprête à être signée entre la ville de Saint-Denis et l'État, une réunion d'information annonce officiellement aux habitants la démolition à venir du bâtiment Piranhas et Caspierre. Les acteurs savent combien cette réunion sera source de tensions et ne manquent pas de rappeler les prérogatives imposées par l'ANRU. Lorsque le bailleur prend la parole, il annonce. Côté avenue Léopold Rimbaud, une réhabilitation de Piranhas n'apporterait rien. Il y aura donc la destruction de 44 logements qui s'y trouvent. Pour les autres, l'ANRU, qui est à Paris, elle nous dit qu'il n'y aura pas de réhabilitation. Si demain, on voit qu'il y a la possibilité pour faire bouger leur position, on sera les premiers à être contents. Notre travail, ce n'est pas de détruire. Un an et demi après l'annonce des démolitions, les natifs de ce quartier, pour certains présents depuis 3 générations, campent sur leur position et refusent de le quitter. Sous le béton de patates à Durand, ce sont leurs terres. Ces terres, pourtant acquises par le bailleur Cédré auprès de la mairie de Saint-Denis en 1977, et sur lesquelles il a fait construire, après le cyclone Hyacinthe de 1986, qui avait démoli le village de pêcheurs, de quoi reloger les habitants. Ils sont dès lors devenus locataires sur des terrains qu'une partie considère encore aujourd'hui comme les leurs, que les démolitions annoncées leur arrachent une nouvelle fois. Donc les politiques publiques ont eu à Patata Durand le rôle de formaliser, hiérarchiser, sélectionner des éléments à conserver, à valoriser ou à effacer dans le processus de reconstruction de la ville sur elle-même. Dans le cas de Piranhas et Caspière, l'histoire de l'aménagement du quartier est absente des discussions sur les démolitions planifiées. Face à des acteurs contraints dans leur cadre et stérilisant les débats mémoriels, les habitants continuent d'occuper l'espace public et faire vivre ces mémoires par leurs pratiques, affirmant leur ancrage territorial. Donc, ainsi, là c'est un récit de ce quartier aujourd'hui. Ainsi, à l'entrée de cette cité, à l'entrée du groupe d'habitation, 5 hommes, entre 50 et 70 ans, sont installés sur des chaises en face de la petite épicerie du quartier. De là, ils ont une vue d'ensemble sur la cité. Ils discutent entre eux. En allant à leur rencontre, ces hommes nous racontent leur quartier pêcheur avant le cyclone. Son tissu économique était centré sur la pêche. Il suffisait de traverser la petite nationale qui passait devant les cases pour se mettre à la mer et de disposer les échoppes le long de la route pour y vendre son poisson. Ils n'hésitent pas à renvoyer leurs interlocuteurs vers le travail du photographe Jean-Marc Grenier, qui a su gagner leur cœur depuis les années 1990 et dont l'exposition « Mythologie » a été présentée en 2016 à la Cité des Arts, centre d'art installé alors depuis peu dans les anciennes forgeries toutes proches du quartier. Ces hommes s'appuient aussi sur le travail de Laurent Waro, qui s'est attaché à retracer la généalogie de ces familles, installées depuis 150 ans dans le quartier. Un peu plus loin, au centre des immeubles, se trouve un petit square, le square Mère Ancienne, qui porte le nom d'une des premières familles installées dans le quartier et dont le nom continue à être porté aujourd'hui par des habitants du quartier. Il y a une dame à son balcon qui observe, une autre assise sur une chaise en bas d'une résidence. Elle rapièce un grand filet de pêcheurs. Au niveau du petit square, un homme entraîne son coq de combat. Il a un coq en bois dans la main, avec lequel il feint d'attaquer le sien pour que ce dernier riposte. Juste à côté de ce quartier, dans lequel on entend encore les coqs chanter, se trouve un rond de coq, au milieu de l'espace en friche, qui longe la ravine, aujourd'hui endiguée. C'est un bâtiment rond, en tôle, dans lequel il y a des petits gradins et où se déroulent régulièrement encore des batailles de coqs. Le long du boulevard Lancastel, au pied de la résidence Piranhas, un petit bar-café et le local associatif des pêcheurs, juste à côté, sous une sorte de porche. En passant, deux hommes me saluent gentiment. En remontant vers la fabrique, centre d'art dramatique, installée dans l'ancienne manufacture de tabac, en face de la Cité des Arts, se retrouve une grande fresque de street art qui a réuni plusieurs artistes lors d'un festival international organisé dans le quartier par le chef de la politique de la ville. En face de cette fresque, un petit jardin spontané occupe un espace délaissé avec quelques bananiers. Donc là, c'est le jardin partagé, ce petit jardin qui a bien évolué, les photos qui sont présentées. Ces exemples sont là pour montrer que chaque recoin de cette cité est alors occupé par la mémoire de ce quartier d'autrefois, fortement approprié, avec un lien à la pêche et à la nature fort. Le 20 février 2019, en réunion de gestion urbaine de proximité, l'agent du bailleur social reprend point par point les sujets résolus depuis l'annonce des démolitions et note les remontées des éducatrices spécialisées installées depuis les prémices du projet dans le quartier. Plusieurs points attirent l'attention des acteurs. Parmi eux, la structuration d'un jardin informel le long de la fabrique où un habitant a investi un espace communal raccordé illégalement au réseau d'eau du bailleur social, dans l'attente d'une convention qui serait en cours pour être formalisée avec la mairie. L'appropriation de l'espace résidentiel par le fils d'un ancien pêcheur qui entrepose sur le trottoir proche d'une des résidences du matériel de pêche sur près de 10 à 12 mètres carrés. Et d'autres points. Les points abordés lors de cette réunion ont principalement attrait à la gestion de l'espace public et mettent en avant la volonté des acteurs de pallier à la forte appropriation que les habitants de ce quartier en ont. On voit ici que si la mémoire du quartier de pêcheurs a pu faire l'objet d'une exposition de photos documentée par une longue immersion de son auteur, qu'il a également fait l'objet d'un travail historique mené dans le cadre de l'exposition, il est dans les bureaux des aménageurs le poids d'une histoire dont peine à se défaire le projet. Elle devient alors, au fil des avancées du projet urbain, réduite à ce village de pêcheurs dans lequel il n'y a plus de pêcheurs. Je cite, « On est vraiment dans un truc avec cette identité de pêcheur que je cherche encore. parce que je ne la vois pas beaucoup, moi, les pêcheurs. Voilà. À Pataté-Durand, l'image du quartier de pêcheurs a donc permis aux acteurs locaux d'échanger avec les acteurs nationaux autour de l'imaginaire collectif des quartiers de pêcheurs. Cet imaginaire permet de donner du cachet à ce quartier qui a subi avec les années des aménagements successifs. Permet de donner du cachet dans la négociation avec l'État pour avoir sur le projet de l'ANRU. Donc, à l'abbaye, j'accélère. À l'abbaye, dans le cadre du projet d'urbanisme transitoire de la ville, c'est l'image de la cité ouvrière des années 1930 qui est mise en avant. La ville souhaite par là réactiver l'imaginaire social, faisant référence au mode de vie, aux valeurs et aux codes sociaux de la cité ouvrière typique, c'est-à-dire celui du quartier semi-rural, composé de maisons individuelles avec jardins privés ou collectifs, permettant une forte sociabilité de ses habitants. Pourtant, ni sa forme urbaine, ni le portrait social de ses habitants ne permettent de rapprocher son identité à celle d'une cité ouvrière, telle qu'elle mise dans notre imaginaire collectif. Mais en réalité, en jouant de la confusion qu'il peut y avoir entre habitation ouvrière et habitation à bon marché, la ville de Grenoble manifeste son désir ardent d'inscrire sa mémoire locale dans la grande histoire du logement social en France. La cité de l'Abbaye a donné naissance à un village où tout le monde se connaissait. La solidarité, là c'est le récit des habitants. La solidarité et la bienveillance animaient leur quotidien. Au fil du temps, ils se sont appropriés les lieux jusqu'à se sentir chez eux, même sur l'espace public. C'est notre quartier, on mangeait dehors, on dormait presque dehors. Ils ont vu leur village se transformer petit à petit pour devenir un véritable quartier urbain. Dans l'imaginaire collectif, les jardins, les fermes, les ruisseaux, les sources d'eau, les arbres splendides et les vues sur les montagnes régnaient à l'abbaye. Les habitants de l'abbaye connaissent très bien l'histoire et la mémoire de leur quartier et ont à cœur de continuer de les faire vivre et de les transmettre. Ils sont d'une manière ou d'une autre le véritable patrimoine de l'abbaye. Leur engagement et leur mobilisation dans ce contexte de transformation urbaine témoignent de leur attachement au lieu et de leur ancrage. Les habitants nés dans la cité de l'abbaye incarnent en quelque sorte ce qu'ils appellent la première âme du quartier. Ils sont les habitants de l'abbaye, ils ont leurs racines et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas s'en aller comme ça. De la même manière, le temps passé à l'abbaye compte. Y avoir vécu pendant plusieurs décennies rend légitime le désir d'y rester, quel que soit le scénario retenu pour son renouvellement. Les familles n'ont souvent connu que l'abbaye. C'est leur repère. Automatiquement, quand on part de l'abbaye, on revient à l'abbaye. Le devenir de l'abbaye se dessine finalement à l'issue de l'étude de particules en faveur d'une réhabilitation partielle, dont l'une des orientations principales consiste à transcrire la mémoire et l'identité des quartiers concernés et de leur habitants en tant que patrimoine matériel et immatériel. Les acteurs de l'aménagement urbain ont fait le choix de l'occupation temporaire de la cité et de ses espaces publics, le temps du projet de renouvellement urbain. L'enjeu étant de conserver une vie sur site et préfigurer les espaces et usages à venir. Depuis le printemps 2021, plusieurs montées de la place André-Charpin sont occupées par des associations socio-culturelles et de l'hébergement d'urgence. D'ici novembre 2022, ce devrait être au tour de petites entreprises sociales et solidaires de prendre place pour renforcer le caractère de faubourg du quartier, révélé par le diagnostic de l'étude particules. Quant à l'espace public de la place, il a été débitumé au printemps 2021 à l'occasion du lancement du projet l'abbaye. L'abbaye incarne ainsi l'un des projets contemporains les plus manifestes de Grenoble, qui souhaite affirmer son statut de ville laboratoire en matière de transition écologique et de démocratie participative. Plutôt que de laisser mort un patrimoine urbain d'une telle superficie dans un entre-deux, pendant X temps, nous fabriquons de la mémoire dans le présent par sédimentation. Donc là, je cite des acteurs du projet, un document du projet. Ce qui importe désormais, c'est que ça continue à vivre. La transformation urbaine de la cité, telle qu'elle se déroule, a entraîné, malgré elle, l'éparpillement de la mémoire collective. Le patrimoine matériel à l'abbaye sert ainsi de décor urbain symbolique sur lequel la ville s'appuie pour ancrer spatialement et temporellement les habitants et les usagers du lieu. Les collectifs socioculturels installés sur place sont pleinement conscients de la valeur sociale de la cité de l'abbaye. La mémoire du lieu comme ressource culturelle prend par exemple forme dans la résidence artistique d'une carnétiste illustratrice qui organise une déambulation sensible et ludique dans le quartier pour dépeindre l'ambiance du lieu, au présent. C'est aussi dans l'exposition Le bruit qui court, qui propose une série de portraits photographiques d'anciens habitants de la cité de l'abbaye, couplés à une sieste musicale et sonore. Pour s'immerger dans la mémoire des lieux, les mémoires collectives de la cité de l'abbaye ont subi, au fil du temps, une série de reconfigurations de manière à traduire les histoires et représentations individuelles ou familiales. La cité de l'abbaye, en renouvellement, incarne aujourd'hui un lien matériel concret entre le temps passé, présent et futur du quartier. Elle permet à ceux qui la pratiquent, qui la traversent et qui l'habitent, de replonger au contact de traces matérielles, de sons, d'odeurs et d'ambiances, in situ, dans un imaginaire social particulier, s'appuyant sur un temps révolu, symbolique, dans un temps de transition, d'un état à un autre, propice à l'émergence des récits personnels et collectifs en train de se faire. Donc après ces deux récits, nous avons essayé de croiser nos récits. Donc, le projet culturel porté par les politiques publiques consiste en un passage d'une culture populaire à une culture organisée, qui propose une histoire commune, faite de l'assemblage de plusieurs mémoires individuelles et collectives, éparpillées dans lesquelles chaque habitant et ou usager pourrait se reconnaître, afin de s'approprier symboliquement et affectivement les lieux. La mémoire rend alors légitime la préservation de la cité en tant qu'ensemble architectural et urbain homogène et remarquable. Les mémoires plurielles de la cité se transforment en une véritable ressource au service du projet urbain et du projet d'urbanisme transitoire. À Grenoble, comme à Saint-Denis, ces mémoires se nourrissent de nostalgie du temps passé, des idéaux d'une ruralité effacée par l'urbanisation et d'une nature dont les villes ont repoussé les accès. La mémoire apparaît à la fois pour les institutions publiques et pour les habitants concernés comme une forme de résistance collective face à la modernisation qui, elle, vient fragiliser le lien entre la société et son territoire quotidien. Cependant, en figeant les mémoires, les projets urbains créent alors un décor historique qui conforte ces nostalgies. Et Philippe Gervais-Lamboni et Clément Collin parlent à ce sujet d'épidémie de nostalgie dans notre société dont la source serait une compression du temps et de l'espace. Le partage d'une mémoire commune permet alors aux politiques publiques de donner une épaisseur historique à un lieu et ainsi renforcer les liens entre les habitants et leur territoire. Pourtant, le projet de l'abbaye tel qu'il se déroule a malgré lui entraîné l'éparpillement de la mémoire collective de ses habitants. Par leurs actions, les décideurs politiques et les aménageurs l'ont graduellement transformé en un objet hybride qui vise à donner au souvenir de l'événement passé une forme stabilisée et archivable. L'enjeu étant de faire entrer ces mémoires collectives et vécues dans la mémoire sociale de la ville, afin que tout un chacun puisse à son tour s'en saisir et se l'approprier à l'image d'un héritage commun sur lequel le renouvellement de la cité repose.
À partir de ce constat sur la saisie de la mémoire et l'appropriation de l'héritage, on va essayer d'introduire le troisième contexte. Et en effet, en Tunisie, localisation s'est transformée en un geste d'appropriation défini par un ensemble de transformations, souvent frugales, spontanées, ou parfois même de l'ordre du bricolage, de l'ordre du simplifié, qui touche essentiellement des bâtiments à valeur patrimoniale. Les squatteurs apportent de nouveaux usages, une nouvelle représentation et des nouvelles interprétations à des objets du quotidien. Le terme auquel désignait une configuration architecturale spécifique de la médina, semblable au caravansérail ou au fondr, avant d'acquérir une connotation péjorative pour décrire désormais tout lieu sans propriétaire, tout lieu insalubre et occupé d'une manière illégale, loué à la journée avec une somme symbolique pour des personnes en situation de précarité. Puis, l'évolution de ce terme, localisation, fait que ce terme devient une caractéristique d'une transformation par les usages, par les ambiances et par les mémoires d'un bâtiment délaissé, occupé et partagé par deux familles et plus, illégalement. Lequel a été avant centralisé dans les établissements délaissés par leurs propriétaires au cœur de la Médina, avant de devenir un phénomène à échelle nationale. Touchons les écoles, à l'image de l'école israélite du Tunis, les palais, à l'image du palais beylical Burj Toukebri à la Manouba, ou encore le palais beylical Ahmed Bey à la Marsa, et également le casino de Hammam Lif, et finalement tout ce qui est Villa Mussolini, et Villa Zodiac. Et en gros, aujourd'hui, tout bâtiment délaissé, comme la nature a horreur du vide, est localisable. Lequel a été essentiellement un support assez intéressant d'études, comme il permettait justement de suivre une certaine tectonique de ces mémoires, comme certaines s'affaissent, d'autres s'affirment et se consolident, et de même, inévitablement, de nouvelles strates de mémoires continuent à être édifiées et créées en permanence. Entre la valeur historique de ce bâtiment, le génie des lieux, des bâtiments localisés, le regard sociétal, les récits collectifs, les histoires folkloriques et les transformations des squatteurs, un ensemble de mémoires, de perceptions s'incrustent, s'imbriquent, se superposent et s'empilent pour former les strates des séoukels. Toutefois, nous assistons à un tri de mémoire entre celles à démolir, celles à conserver, à capitaliser. Les projets se structurent pour définir en quelque sorte un projet patrimonial politique. Le processus de la modification de ces mémoires est souvent naturel. Toutefois, il pourrait être également accéléré, commandé, voire assisté. Dans ce qui suit, nous allons essayer de traiter trois volets essentiellement. Le regard sociétal et institutionnel, la mémoire des squatteurs, et finalement saisir localisation comme un support ou comme un moteur de construction de mémoire collective. Pour entamer la réflexion sur le regard sociétal, il n'y a pas mieux que le cinéma, miroir de la société, pour pouvoir refléter en quelque sorte l'acceptation ou le regard de la société vis-à-vis de ce phénomène de localisation. Quatre films étaient analysés, un film de fiction néo-réaliste, Le Sultan de la Médina, trois films documentaires, Subutex, La Goulette, Année Zéro, ou encore C'était mieux demain. Le point commun entre ces films, c'est essentiellement le bâtiment localisé qui devient un acteur au sein des événements pour faire avancer la narration. Et justement, les villes varient, les typologies également varient dans ces films documentaires ou le film de fiction également. Mais pourtant, le constat, il est le même. On aura toujours les mêmes termes utilisés pour parler, pour décrire ces auxquels. À la fois danger, drogue, insalubre, viol, pratique illicite. Donc, les auxquels, sur le regard sociétal, se résument sur un vivier de danger. Pour avancer encore un peu dans l'usage du terme « auquel », dans le quotidien, au jargon, c'est toujours aussi lié à une certaine dénotation péjorative, comme ça évoque tout ce qui est chaotique, tout ce qui est sans règles, tout ce qui est sans loi. J'ai essayé par la suite de passer de cette analyse globale à un cadre un peu plus particulier, justement pour contextualiser l'analyse qui porte sur les « auquel ». C'est pourquoi j'ai choisi de centraliser l'analyse sur essentiellement Burj Toukebri. Burj Toukebri, c'est une résidence d'été du Bey Husseinite qui était construite au XVIIe siècle. Et elle se trouve aujourd'hui entourée d'une forêt d'immeubles à quelques pas d'un grand projet national urbain. Et pourtant, ce Burj, il est immobile, il est en suspens, dans un environnement qui évolue, alors que lui, il présente une arythmie. Burj Toukebri délabré, affaibli par le temps et par l'oubli institutionnel, comme sur ce PAU, il est absent sur tous les programmes de planification urbaine. Il est simplement remplacé par une voie, par une route, ce qui peut-être manifeste également le projet politique pour ce Burj. les acteurs officiels de l'accent patrimonial en Tunisie ont mis en place une loi qui s'appelle la loi IMR, les immeubles menaçant ruine, qui autorise les promoteurs immobiliers privés et étatiques à racheter un bâtiment historique à valeur patrimoniale non classée, même propriété des étrangers, une fois réduit en ruine. Le regard du voisin du Burj, habitant juste à côté, donc dans ces nouveaux immeubles, partageaient le même avis. C'était obligatoire pour eux également de détruire à tout prix ce Burj, parce que également pour eux, c'était une hofra, un trou, qui présente essentiellement une source de nuisance, de danger pour leur enfant et aussi pour le standard de leur vie. Ces avis, j'ai pu les collecter à travers deux protocoles réalisés en immersion. Le premier, c'est le protocole café, où tout simplement j'ai balancé une petite feuille sur le comptoir en demandant de remplir leur avis sur qu'est-ce qu'ils projettent et qu'est-ce qu'ils prévoient pour ce Burj. Et le deuxième moment d'immersion terrain, c'était justement une petite session d'atelier créatif. L'objectif était pareil, d'essayer de co-construire ensemble le futur de ce Burj au sein du nouveau quartier. Mais toutefois, encore une fois, le constat était le même. C'était la première volonté de faire démolir le Burj. J'ai aussi consolidé cette recherche avec une veille sur les réseaux sociaux à travers les groupes de la ville de Mannoub, où se situe le Burj, et également d'autres groupes d'intérêt au patrimoine national. Encore une fois, le constat était le même. Que des termes péjoratifs pour parler des squatteurs, pour parler de ces localisations, et aussi une invitation concrète et réelle pour expulser et libérer les biens pris en otage. La société civile, quant à elle, elle est mitigée dans son avis. Mais du moindre, nous constatons que cette dernière, c'est elle qui orchestre et influence en quelque sorte les implications de l'État et la définition des propriétés patrimoniales. Donc finalement, en Tunisie, l'action patrimoniale, elle est plutôt des pulsations poussées par une pression médiatique et sociétale. Les propriétés des étrangers, les contraintes financières, foncières, aujourd'hui en Tunisie, forcément, ce n'est plus une priorité vu la situation et la conjoncture actuelle, mais également des difficultés réglementaires et techniques bloquent ces projets de réhabilitation et justement laissent penser qu'aujourd'hui, le projet patrimonial passe au second plan. Après avoir finalisé cette collecte d'avis sur localisation et la construction de ce regard sociétal, j'ai essayé de passer du côté des squatteurs pour voir avec eux comment eux ils occupent, ils saisissent de cet objet. Et à vrai dire, j'ai pu distinguer trois modes de localisation. Le premier type de localisation, c'est celui où on a plus d'implication, plus d'investissement matériel, affectif, là où on transforme ce bien localisé à une sorte de chez-soi. Donc il y a plus de relations avec les lieux, on s'attarde sur le choix de décoration pour rappeler également le fait qu'on habite dans un objet patrimonial, après tout. Et on essaye de privatiser certains lieux, comme le patio avec des petits aménagements, comme également des petits lieux transformés pour rendre des patios et créer des foyers de partage. Le deuxième mode d'occupation de localisation, c'est celui du passage de la station, là où nous sommes prêts à passer à un autre lieu, là où nous sommes prêts à changer de lieu. Là, l'investissement il est réduit à l'essentiel et forcément, lorsque nous avons réalisé des cartes mentales et lorsque nous avons réalisé des exercices de genre de représenter l'espace, il y avait toujours une autre idée, une autre aspiration pour quitter ces lieux. Le dernier type d'occalisation, c'est l'image du refus sociétal, l'image de l'échec. Et là, c'est le zéro investissement, c'est le zéro contact, même avec moi qui a essayé pas mal de fois d'accéder à ces lieux. Contrairement aux autres, ça m'était impossible, vu que toutefois, il y avait seulement un matelas déposé par terre et ce lieu servait justement que de lieu de passage ou lieu de passer la nuit. Le premier mode, en fait, d'occalisation, là où il y a une certaine identification par rapport à ces lieux, nous laisse avancer une autre manière de patrimonialiser, ce que nous pouvons avancer comme l'alter-patrimonialisation. Et à ce moment-là, on pourrait penser à pouvoir construire un projet commun autour d'une certaine possibilité de synchronisation entre les différentes strates, les mémoires, l'identité des lieux du bâtiment, la mémoire de ses nouveaux occupants, mais également les mémoires du quartier, aussi de la population d'une manière générale. Et comme vous avez pu constater, la participation citoyenne, avec forcément faire participer les squatteurs dans ce projet qui va leur permettre justement de créer un commun partagé et de mettre en place un ensemble de cohésion, une cohésion territoriale pour le bâtiment en soi, une cohésion sociale pour créer une surface de dialogue entre les voisins, la société, mais également ses squatteurs, et ne pas les laisser à l'exclusion, mais finalement aussi une cohésion des acteurs avec l'intégration et l'implication de tout le monde dans ce projet sociétal et patrimonial. Et finalement, peut-être en guise d'ouverture, l'alter-patrimonialisation, elle pourrait être plus humaine, qui fait du patrimoine un ensemble de récits, de vécus partagés, de trajectoires de vie. Et à ce moment-là aussi, peut-être des questions pour avancer un peu sur la conclusion que Tanika va par la suite finaliser. Ok, il n'y aura pas de Tanika, ça sera à moi de faire la conclusion. Donc, nous n'avons pas eu vraiment le temps justement pour aller un peu plus dans l'analyse, mais forcément dans ces relations avec le lieu, ce sentiment d'appartenance qui se crée à travers un objet qui était au départ inconnu, qui était au départ imposé, mais que finalement, il y a un certain côté sensible, un certain côté fragile, et aussi des affects qui se créent, et c'est aussi ce côté d'alter-patrimonialisation. Les questions peut-être qu'on pouvait justement proposer à la discussion, c'est finalement, quelle mémoire sauvegarder ? Les exemples que j'ai montrés tout à l'heure, c'était une école israélite et qu'en Tunisie, forcément, on a un petit recul par rapport à la religion juive. C'était également aussi des bâtiments de l'époque beylicale. Également, il y avait une fracture historique pour les Tunisiens avec la période beylicale. Et aussi, donc, à ce moment-là, quelle mémoire sauvegarder ? Quelle mémoire capitaliser ? Et également, quelle est la place de ce patrimoine ordinaire dans le processus de la patrimonialisation ? Les aménagements dans le jardin, les aménagements dans le patio, pour les squatteurs, c'est un nouveau patrimoine qui est en train de se créer. Et là aussi, c'est forcément l'intérêt peut-être à intégrer, je retiens presque les mêmes termes qui ont été tout à l'heure avancés, le patrimoine ordinaire, les objets du quotidien qui aujourd'hui se transforment en un nouveau processus de patrimonialisation. La dernière question, et promis, je clore avec, c'est que le projet patrimonial, aujourd'hui, est-ce qu'il est en synchronisation avec la valeur patrimoniale du bien, ou est-ce le projet sociétal, ou finalement un projet politique, et peut-être aussi enchaîné avec la dernière présentation et le projet touristique du Bénin, qui est purement politique. Donc voilà, je présente mon objet ou pas ?
Si tu veux, tu peux commencer. Déjà, il faut vous remercier pour cette présentation assez intéressante. Et oui, vous pouvez applaudir. Et oui, tu peux présenter ton objet.
Mon objet, j'ai rapporté deux images. En fait, malheureusement, je n'ai pas pu rapporter l'objet en soi. Je peux les montrer.
Donc, en gros, pour continuer cette participation citoyenne et cette alter-patrimonialisation qui peut se faire justement avec les squatteurs qui sont aujourd'hui malheureusement perçus comme des éléments nocifs, ce que j'ai ramené, c'est juste une petite assiette de café. Et le café, forcément, c'est le débat, c'est le partage, c'est la création de projets communs. La transformation aussi de ce patio qui était privatisé pour les squatteurs en un lieu de discussion pour moi, un membre étranger qui venait pour la première fois pour débattre et aussi pour découvrir eux comment ils perçoivent l'objet patrimonial, leur définition des patrimoines. Donc c'était mes deux objets du terrain que j'ai essayé de partager avec vous. Merci.
Tu veux présenter ton objet, Tanika ?
Oui.
C'est lequel ?
Ça marche, hein ? Ça, c'est ce que j'avais sous la main ici. mais ça m'a fait penser en fait au son que font les élections locales, où il y a des grosses voitures qui passent avec des enceintes pour justement valoriser tel ou tel élu. Et dans les quartiers, donc là, dans la cité de Piranhas-Caspierre, ça fait partie des quartiers où on peut où un élu vient présenter en fait son projet, et ça va faire en fait voilà, c'est le bruit que font les voitures au moment des élections municipales, principalement les élections locales. Ouais, non, c'est pas ça qui fait, hein.
Aussi, il y a l'objet de Rima qu'elle a envoyé. Ah oui. C'est un petit carnet de dessin au format carnet de voyage, réalisé en mars 2022 dans le cadre d'une balade organisée à l'abbaye par l'artiste Alice, qui raconte et qui fait des topazines, sorte de guide personnel et sensible. Comme si j'étais Rima. Nous étions un groupe de femmes. Nous avons arpenté le quartier depuis la bibliothèque Abbaye-les-Bains jusque dans la cité de l'Abbaye, rue Suzanne Buisson. Ce petit carnet propose de découvrir notre attentive balade à l'Abbaye à travers nos dessins, mots, collages et cueillettes. On peut enchaîner avec les questions et les commentaires si vous en avez... C'est le bon moment de les faire.
Moi, j'ai une question. Noa Schumacher, doctorante au Cresson. J'ai une question pour toi, Anouar, sur le phénomène d'oukalisation. C'est pour en fait, être sûr d'avoir compris les limites du terme. J'ai en tête l'école, enfin, un peu, tu as montré l'école israélite de Tunis. J'ai en tête l'école abandonnée de la Médina de Sfax, qui a été, cette dernière année, aussi mise sous cadenas. Par une personne seule, mais a priori c'est pas ce que je qualifierais de squat en France, parce qu'il n'y vit pas. Il a une vocation juste à nettoyer le lieu et à plus ou moins le conserver, mais il n'y a pas de vocation de s'y installer. Est-ce que ça fait partie du phénomène d'oukalisation?
Alors effectivement, et j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais oukalisation, et pourquoi j'ai utilisé un autre terme que le squat pour faire la différence entre le squat en France et l'oukalisation en Tunisie. L'oukalisation, dans sa définition, c'est obligatoirement une composante d'habitation. Donc à ce moment-là, dès le moment où on n'a pas vraiment de famille et plus, et en fait c'est aussi assez précis, il faut obligatoirement qu'il y a deux familles et plus pour parler de oukalisation et d'oukel. Généralement, voilà. La différence entre le squat et l'oukalisation ou l'oukel, c'est que premièrement, l'oukalisation, elle s'installe d'une manière plutôt discrète. Il n'y a pas la violence de l'acte d'entrer dans les lieux. C'est plutôt une nécessité, premièrement, sans aucune revendication politique, sans aucun engagement d'implication ou autre, anarchiste ou autre. C'est vraiment un besoin concret avec forcément la situation économique qui s'empire de plus en plus, et qu'aujourd'hui il y a un problème pour des SDF. Donc vu qu'encore une fois en Tunisie on a un parc assez énorme de bâtiments à valeur patrimoniale, et que ça rentre dans les propriétés des étrangers, que l'État n'ose pas intervenir, donc on laisse la nature faire, laisser que ces bâtiments se détruisent pour appliquer la loi IMR et mettre en vente ces bâtiments. Donc entre ces deux moments, forcément, il y aura ces personnes justement en quête de toi qui vient venir et s'incruster aussi dans le bâtiment en soi.
D'autres questions?
Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Donc c'est une question qui s'adresse à... Oui, pardon, Céline Bonico-Donato. Une question qui s'adresse à tous les deux, et à Rima qui n'est pas là aussi. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à sa place. Est-ce que vous considérez que votre travail de doctorat, les entretiens que vous faites, Rima, les carnets ou d'autres méthodes que vous mettez en place permet de sauver cette mémoire au-delà de la mémoire patrimoniale bâtie? Est-ce que vous considérez que votre travail, c'est une manière aussi de formaliser cette mémoire, d'en garder trace et de la restituer?
Je réponds, peut-être aussi Rima aurait répondu de la même manière. La simple mise en débat de ce genre de situation, que ce soit le quartier de l'Abeille ou que ce soit Léoukela, forcément, c'est une manière de sauvegarder, de mettre la lumière sur ce genre d'approche. Et également, ces petits moments d'atelier de créativité que nous avons réalisés avec les voisins, la sensibilisation aussi dans les réseaux sociaux, le fait que la société civile, elle s'intéresse de plus en plus, qu'on les sollicite. Et la dernière fois, j'ai parlé avec une association, la directrice, elle m'avait dit, j'ai totalement oublié ce bâtiment et pourtant c'est juste à côté de chez moi. Donc forcément, peut-être aussi en Tunisie que le tissu sociétal aujourd'hui il est en cours de développement et que forcément ce genre d'approche il est assez intéressant. La simple mise en débat, la simple identification et reconnaissance de l'existence de ce phénomène, forcément aujourd'hui ça sera peut-être simplement ça, mais petit à petit il y aura forcément des solutions pour proposer, pour sauvegarder à la fois, encore une fois, l'enjeu il est double, sauvegarder ces personnes qui ont trouvé un peu leur refuge dans ces lieux, et aussi sauvegarder l'identité un peu du pays entier, que malheureusement, encore une fois, pas mal de politiques, pas mal de raisons, mais le constat et le résultat, il est le même.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Peut-être je peux répondre aussi. moi, spontanément, j'aurais dit non. Enfin, mon travail personnel, je ne pense pas que ça permet de faire vivre cette mémoire. En fait, il y a déjà des personnes qui le font. On a vu l'exposition qu'a fait Jean-Marc Grenier, qui est sur le quartier. En fait, il s'est vraiment intégré à ce quartier de pêcheurs. Il a retranscrit, en fait, dans les images. Son exposition s'appelle « Mythologie », mais c'est parce qu'en fait, ces pratiques qu'ont les habitants, elles vivent encore vraiment beaucoup dans leur discours et dans ce qu'ils font, mais c'est pas l'image qu'on en a directement. Et après, ben voilà, le travail de Laurent Waro aussi, qui va retracer cette généalogie. Mais finalement, quand on voit un gros projet urbain qui arrive sur ces quartiers, c'est souvent un petit peu trop tard pour refaire vivre ces mémoires. C'est-à-dire que les bâtiments, là, aujourd'hui, ils sont, y a plus que quelques habitants qui y habitent encore. Et la démolition est prévue pour 2003, après le... pas pour 2003, pour la fin de l'année. qu'est-ce que je voulais dire? oui, voilà. Ça va... Après, voilà, le bâtiment, c'est pas en soi ce qu'il faut retenir. C'est plutôt la mémoire des habitants, mais ils vont être dispersés un peu dans différents quartiers de Saint-Denis. Et voilà, il y a de temps en temps des expositions, mais aujourd'hui, il y a plus grand moyen de faire vivre en fait cette économie de la pêche à Saint-Denis. L'aménagement a été trop brutal en fait pour maintenir quelque chose.
D'autres questions ou commentaires? Ok, peut-être un petit mot pour clôturer.